On va retrouver tout de suite notre invité pour parler de Gaza, du génocide subi par la population palestinienne. Génocide, c'est le mot utilisé par Amnesty International dans son dernier rapport. 300 pages pour documenter certaines des actions de l'armée israélienne interdites par la Convention de 1948 pour la prévention du crime de génocide. Bonjour François Dubuisson.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'association Juristes pour le respect du droit international. Juridiquement, justement, dans quelles circonstances parle-t-on de génocide ?
Alors, la définition du génocide nous est donnée par la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, de même que par le statut de la Cour pénale internationale. Et ça se caractérise par une série d'actes matériels, par exemple le meurtre de membres d'un groupe national, ou bien le fait de soumettre ce groupe à des conditions d'existence qui peuvent entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mais l'élément tout à fait spécifique, c'est l'intention génocidaire, c'est-à-dire l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et c'est souvent ça l'élément le plus compliqué à déterminer dans lorsqu'on se situe dans le cas de crimes de masse. Il faut en plus démontrer donc cette intention tout à fait spécifique, et c'est sur quoi porte en particulier le rapport de Amnesty International.
Oui, dans ce rapport, Amnesty conclut que les actes en question, la destruction de Gaza, de ses habitants, les privations de nourriture, d'eau, de soins, sont le résultat d'une politique délibérée de la part du gouvernement israélien, ce qui est démenti très vivement par Israël. Quelle est la place justement de cette notion d'intention? Qu'est-ce qu'en font des organisations internationales de défense des droits de l'homme comme Amnesty?
Alors, l'intention, elle a été définie dans toute une série de jurisprudences internationales, notamment les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie, ou bien la Cour internationale de justice dans plusieurs affaires. Et l'intention, elle peut se démontrer de deux manières, soit par des déclarations explicites, soit par l'examen des faits sur le terrain et pouvoir en dégager une ligne de conduite qui ne s'explique que par une intention génocidaire. Et ici, dans le cas de Gaza, ce que met en évidence le rapport d'Amnesty, c'est qu'on a un peu les deux éléments qui se rejoignent, c'est-à-dire qu'on a énormément de déclarations de responsables israéliens parmi les plus hautes instances qui ont fait des tas de déclarations de déshumanisation totale des Palestiniens pour ne pas finalement faire la distinction entre les combattants et les civils. Mais également, ces éléments sont relayés sur le terrain par de nombreuses vidéos de soldats qui se sont filmés en faisant des incantations génocidaires, donc en accompagnant certains actes de discours qui montrent que leur volonté est de détruire totalement Gaza et sa population. Et donc, ce sont ces éléments-là qui ici sont quand même très présents et qui vont dans le sens de retenir la qualification de génocide.
C'est ce qui fait dire depuis plusieurs mois à un certain nombre de militants pro-palestiniens donc qu'un génocide est en cours. Plus récemment, plusieurs instances internationales ont utilisé ce terme. La rapporteuse de l'ONU pour les territoires occupés, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et puis le mois dernier, un comité spécial des Nations unies. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Qu'est-ce qui peut y avoir comme conséquence?
Alors, ça peut avoir plusieurs types de conséquences. Tout d'abord, peut-être briser un tabou sur l'utilisation du terme. On voit que les autorités publiques, en particulier d'États européens, ont beaucoup de mal à utiliser, pour toute une série de raisons, ce qualificatif, d'une part. D'autre part, lorsqu'il y a un génocide et même simplement un risque de génocide, il y a des obligations de prévention à la charge de l'ensemble des États qui ne doivent y prêter aucune assistance quelconque, et doivent mettre tout en œuvre pour prévenir la poursuite des actes pouvant constituer un génocide.
Donc avec des conséquences pour les pays qui livrent des armes à Israël, par exemple ?
Évidemment, ça c'est le premier élément qui vient à l'esprit, c'est de cesser toute livraison d'armes susceptibles d'être utilisées dans le contexte de Gaza, et même d'ailleurs de manière plus générale dans le contexte de l'occupation israélienne, en ce compris la Cisjordanie. Ça c'est plutôt le résultat de l'avis de la Cour internationale de justice rendu en juillet dernier. Donc ça c'est vraiment le premier élément, mais il faut aussi prendre des mesures proactive pour faire cesser les actes susceptibles d'être qualifiés de génocide. Et donc là, faire des mesures de pression beaucoup plus intenses vis-à-vis du gouvernement israélien pour qu'on aboutisse dans un premier temps à un cessez-le-feu et puis qu'on aboutisse ensuite à des mesures plus globales de réparation et de cessation de l'occupation. Donc là, il y a des obligations pour Israël évidemment, mais également pour l'ensemble des États. Et puis ça peut avoir des conséquences auprès de la Cour pénale internationale, parce que évidemment, j'imagine que non seulement le rapport, mais également tous les éléments de preuve qui constituent le fondement du rapport et recueillis par Amnesty International vont être envoyés au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui jusqu'à présent, dans les mandats d'arrêt qui ont été délivrés il y a maintenant 2 semaines, n'étaient pas retenus les charges de génocide à l'encontre de Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense, mais ça, ce sont des charges qui pourraient être ajoutées par la suite et faire l'objet de nouvelles demandes de mandat d'arrêt ou à l'inculpation, en tout cas la demande d'accusation d'autres dirigeants israéliens.
Et ça serait possible que ce terme soit repris? Vous nous disiez que c'était particulièrement délicat pour les pays occidentaux.
Mais on voit bien que c'est pour des raisons à la fois symboliques et idéologiques, c'est-à-dire que les États, enfin, de nombreux États européens, dont la France, considèrent toujours Israël comme étant un allié proche, donc vont avoir beaucoup de mal à utiliser certains qualificatifs. On avait eu la même chose avec le qualificatif d'apartheid. Dans l'avis que je mentionnais tout à l'heure de la Cour internationale de justice rendu en juillet 2024, la Cour a retenu le fait que le traitement des Palestiniens relevait d'une violation de l'interdiction de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Donc finalement, ça a été confirmé par la plus haute instance judiciaire internationale.
Et malgré ça, on voit que cette question est quand même encore un peu délicate. Je vous remercie beaucoup, François Dubuisson, d'avoir été en ligne avec nous, professeur de droit
avec
international
plaisir
à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi membre de l'association Juristes pour le respect du droit international.